Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 16 mars 2021. Et il y a 10 ans et 5 jours, le 11 mars 2011, le Japon connaissait l'une des plus terribles catastrophes de son histoire récente. Une catastrophe naturelle qui s'est doublée d'une catastrophe due à des causes humaines dont les conséquences semblent malheureusement plus durables. Alors je vous invite simplement, je ne vais pas faire de grands discours, mais avoir une pensée pour tout ce que la population de la région du Tohoku, et plus spécialement de Fukushima, a enduré, et pour l'héroïsme dont elle a fait preuve et dont elle continue de faire preuve. Je vous remercie. Après avoir vu à la leçon précédente des épisodes du livre 6, où se découvraient plusieurs exemples de sincérité désintéressé de la part de courtisanes, comme aussi de certains de leurs amants d'ailleurs, nous verrons à présent dans le livre 7 s'accentuer avec une intensité progressive l'atmosphère magico-religieuse, avec une imprégnation bouddhique qui se fait de plus en plus profonde. Ce livre marque donc une étape importante dans l'évolution que semble vouloir dessiner Saikaku dans son roman et dont le livre 8 marquera l'aboutissement, en même temps que la vie de son protagoniste d'ailleurs. Lequel, comme nous avons pu le constater, est obstinément absent de toute la narration. Il faudra revenir un peu là-dessus quand même. Mais nous reviendrons sur cette question en temps voulu, très bientôt donc, puisque nous sommes à la 11e leçon, il n'en restera que deux après. Pour l'instant, voyons la première étape, le premier chapitre de ce livre 7, qui nous présente encore une fois une histoire assez cohérente, mais avec de nombreux rebondissements et une conclusion annonciatrice de la suite du roman, de la suite et de la fin. Sous le titre « Le hameau des beautés regrettablement caché », Oshiya Sugatawa Kakurezato, pardon. Je m'aperçois que, je vous avais d'abord promis la semaine dernière l'illustration d'une histoire qui était assez impressionnante et que j'avais omis d'insérer, ou plutôt que j'avais omis de demander à mon assistant et doctorant Arthur de France d'insérer. Voici l'illustration, les deux amants qui, comme vous le voyez, se brûlent le petit doigt dans un serment de fidélité. Ils s'entourent le petit doigt d'une mèche de lampe et la font brûler en se regardant dans les yeux. Ça fait mal, mais c'est sincère. Et voici, donc je me suis acquitté de cette promesse. Alors pour ce qui est de cette fois-ci, sous le titre donc « Le hameau des beautés regrettablement cachées », Oshiya Sugatawa Kakurezato, une imbrication de sens dont on aperçoit la portée générale, donc je n'entre pas trop dans les détails. La suite, les faisant apparaître, d'ailleurs ces détails, nous avons une histoire mêlant une terrifiante affaire de vengeance et de retrait final du monde. La scène se passe dans l'ancien Yoshiwara d'Edo, avant son transfert. L'héroïne en est une jeune beauté, aussi belle que bonne. Je vous donne donc ici, ça commence à la ligne 2, n'est-ce pas ? À la fin de la ligne 2, Kono Kaobase, n'est-ce pas ? Elle avait un visage à rendre la lune jalouse quand elle se montrait, un éclat à tromper les fleurs. Elle reçut le nom de Chozan, fut d'emblée élevée au rang d'Etaïr et défraya la chronique. Elle était au demeurant d'un caractère magnanime et doux, qui se refusait à délaisser même ses amants passagers. Elle rencontre un beau samouraï dont elle s'éprend. Je continue. Un certain temps de là, un guerrier errant, donc un ronin, n'est-ce pas, le Saikaku dit, ronin mono, qui accentue un peu un mauvais garçon, comme dit la chanson, qui se cachait du monde à Kurumazaka, puisqu'il était en rupture de banc avec son clan, n'est-ce pas, qui se cachait du monde donc à Kurumazaka, en Shitaya, et qui s'était épris d'elle. Il avait pu tant bien que mal la fréquenter pendant plus de 2 ans, au point qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie même. Les circonstances firent que l'homme, originaire de Sendai, donc dans le Tohoku dont je parlais, fut obligé de rentrer au pays. Une séparation que la belle Etaïr supporte mal. Ils se firent de longs adieux au milieu des pleurs, et lorsque la nuit toucha à sa fin, Chozan changea d'habit de dessous, coupa sa noire chevelure et la lui jeta. Ma condition, Tsutome no mi, n'est-ce pas, on a vu plusieurs, son ministère, comme je traduis souvent Tsutome, et mi, le corps et la condition, le statut. Ma condition fait qu'un jour je me sépare d'un homme pour en rencontrer le lendemain un autre, encore inconnu. Il sera hélas normal que, changeant avec le temps, je finisse par oublier, mais que je pense à vous si fort ne peut être que la conséquence inévitable d'une vie antérieure. Shizen no inga, encore une fois, les causes et effets. « Tuez-moi donc avant de partir. » Elle devenait comme folle sous ses yeux. C'est la fin de cette diapositive. « Miruuchi ni kunibito no gotoshi. » Alors, nous avons donc encore une fois le rappel de la loi inexorable des enchaînements causaux, n'est-ce pas, des innen que nous avons vus, dont je vous ai dit que c'était la dynamique de cette narration, comme de beaucoup de narrations japonaises, des causes et des effets. Et le meurtre n'est certainement pas la meilleure façon de l'abolir, cette loi des causes et effets, puisque bien sûr le meurtre enchaîne et le suicide enchaîne encore d'autres causes et effets. Le guerrier errant, tout en la modérant, lui fait un tragique cadeau. Donc, c'est à partir du 3, n'est-ce pas, c'est la fin de la ligne 3. Komono ni motaseshi sashikae no katana, n'est-ce pas. Donc, il prit un sabre de rechange qu'il faisait porter à son page et le lui remit. Voici un souvenir qui ne vous sied guère, mais je vous le confie jusqu'à nos retrouvailles. C'est un drôle de cadeau, et ce dont s'étonne d'ailleurs l'entourage de l'étahir. La duègne et les caméristes qui assistaient à l'entretien s'exclamèrent. Mais l'étahir n'a que faire de cet objet. Chosan, elle, l'étahir, donc la Chosan, l'accepta solennellement. Bien que femme, je trouve qu'il est veule, pour mettre fin à ses jours, de se couper la langue, de se pendre ou d'avoir recours au rasoir. J'aurais sans doute à utiliser cela, donc elle va se suicider en samouraï, en quelque sorte. L'homme, en partant, avait fait allusion à un grand vœu, un daigan, donc, qu'il avait à mener à bien. Ce vœu, nous allons le voir, n'avait aucun caractère religieux, bien au contraire, mais le vocabulaire même situe ce projet au niveau de la pratique religieuse, ce qui fait que la fin en coulera de source. Daigan, évidemment, c'est un terme bouddhique, le grand vœu de faire telle ou telle pratique pour arriver à telle ou telle fin, mais dans l'ordre du salut religieux. Évidemment, ici, ce n'est pas tuer qui est une vengeance est le pire grand vœu que l'on puisse faire dans le cadre du bouddhisme, mais vous voyez qu'il n'hésite pas à utiliser ce mot, comme beaucoup de gens, il y a vraiment deux dimensions, la dimension religieuse, la dimension phénoménale. Nous apprendrons ce qu'il en était exactement de ce grand vœu, lorsque, après de longs mois sans nouvelles, un ami de son amant arrive à Edo. C'est là. Alors. C'est... Oui, voilà. Un ami de son amant arrive à Edo. Un jour. Oui. Excusez-moi, je voyais mal. Oui. Mono-mou Orikara. Oui, c'est bien par là. Ça commence dès la première ligne. Un jour où il était plongé dans ses pensées, survint un pays au sens rural d'autrefois, n'est-ce pas, en japonais, Kunitomodachi, donc quelqu'un de la même province que son amant. Donc, survint un pays de son amant qu'elle avait vu auparavant deux ou trois fois avec lui, un certain Tsugawa Sasuke. Tout heureuse de sa visite, elle lui demanda des nouvelles du sieur Kakuya. Nous apprenons ainsi son nom. La première fois, jusqu'à maintenant, son nom n'était pas donné. Et tout, alors, je suppose que c'est par hasard, mais avec Saikaku, on se demande toujours où est le hasard. C'est le même nom qu'avait une petite camériste dans un épisode précédent, dont vous vous souvenez peut-être. Et le pays, donc, lui révèle les raisons de son absence, puis de son silence. « Ce bas monde, lui répondit-il, repose sur deux principes, l'amour, koi, et l'impermanence, mujo. » Après avoir quitté vous voyez, il commence à annoncer, il commence à préparer la suite. Après avoir quitté ce quartier, il était rentré en cachette dans son village pour tendre une embuscade à Hosoi Jisuke, l'ennemi de son frère aîné, dont il devait tirer vengeance. Donc le frère aîné de Kakuya avait certainement été tué par ce sinistre Jisuke, et en bon frère cadet, Kakuya s'était juré d'en tirer vengeance. Vous savez que ce n'était pas encore le cas sans doute à cette époque-là, il faudrait que je vérifie, mais la vengeance légitime, donc la vengeance, le crime d'honneur en quelque sorte, était parfaitement légal au Japon du moment qu'il était bien expliqué, au point même qu'on avait fini, un peu comme les duels à l'époque des Trois Mousquetaires, n'est-ce pas, le gouvernement, le shogunat avait fini par le régulariser, et vous aviez alors non pas des attestations de sortie mais des attestations de vengeance. Vous alliez au commissariat, enfin chez le bugyo, n'est-ce pas, du coin. retirer un document qui est une sorte de blanc-seing pour la vengeance et limité, c'est-à-dire il fallait donner l'identité de celui que vous alliez tuer et puis jusqu'à, alors selon les circonstances, quelles autres personnes vous alliez mettre dans le package, n'est-ce pas ? Donc c'était parfaitement légitime. Donc il était rentré en cachette dans son village pour tendre une embuscade à Hosoi Jisuke, l'ennemi de son frère aîné, dont il devait tirer vengeance. Mais hélas, sa chance avait tourné. Alors qu'une maladie l'empêchait de voir clairement des deux yeux, il se rua sur lui avec une trop grande précipitation, se trompa et pourfendit le valet de son adversaire. Ça rappelle un peu une scène de Blazing Saddles, je ne sais pas si vous... Jisuke eut le temps de dégainer. C'est ainsi que Kakuya a malheureusement et un peu bêtement péri, victime d'une vengeance malmenée, Kairi Uchi, une vengeance à rebours. Pire encore, il n'y a plus moyen de réparer cette injustice, puisque le pays précise, d'autant plus que comme il n'avait ni femme ni enfant, il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter de possibles représailles. S'il avait eu des enfants, évidemment, l'enfant devenu grand aurait repris à son compte la vengeance aurait voulu assurer la vengeance de l'assassinat de son père. Jisuke pourra faire ce qu'il veut, le monde est à lui. Omo umama no Jisuke ga yo no naka, dit la fin du premier paragraphe, n'est-ce pas ? Alors, le paragraphe 2, la Chosan semblait à peine concernée par cette relation. Vous voyez, elle dissimule. Elle ne versa point de larmes et se contenta de déclarer, tout en servant tranquillement le vin, le saké, « La condition humaine est bien imprévisible. » Puis, elle regagna son établissement. Après son départ, l'autre ne put s'empêcher de rire. « Il n'y a vraiment rien de plus frivole qu'une courtisane. Voilà toute la compassion dont elle est capable. » Il est vrai que s'il lui fallait penser à ceux qui ne viennent plus en raison d'une faillite ou qui, avec l'âge, commencent à réfléchir, elle n'aurait plus de répit. Voilà, donc, elle dissimule ce qu'elle pense réellement. Mais la belle n'en pensait pas moins. Quelque temps plus tard, elle vient supplier son employeur avec une menace voilée de suicide en cas de refus. Donc, il va certainement... c'est une menace qui n'est pas à prendre à la légère. Donc, elle vient supplier son employeur de la laisser partir, contre compensation, non pas de quitter le métier, mais pour aller au quartier des plaisirs de Sendai. Donc, elle va dans le Tohoku. Le tenancier, ayant pesé le pour et le contre, la laisse partir. Et là-bas, en province, avec le prestige d'une courtisane de haut rang venue d'Edo, n'est-ce pas, Sendai est quand même la province, elle rencontre vite un grand succès. Mais surtout, gagne à sa cause un homme qui est le vivant portrait de son Kakuya, et qui est lui-même en fait sa propre cause, n'est-ce pas ? Et c'est donc après qu'elle eût expliqué à ce client dont elle voyait qu'il était suffisamment malléable, n'est-ce pas ? Elle lui explique cela, et évidemment, elle a bien fait de le faire, parce que Konotoko Namida Nishizumi, donc la première ligne, n'est-ce pas ? Le gaillard fondit en larmes et lui promit son aide. Que l'affection d'une courtisane la pousse à assouvir une vengeance, voilà qui est sans précédent aucun. Je ne vaux peut-être pas grand-chose, mais je ne refuserai pas mon concours et saurai me conduire en homme lorsqu'on vient me solliciter pour une telle cause. D'autant plus que c'est le moment opportun pour frapper. Le dit Jisuke mène à présent grande vie dans le monde flottant. Il se rend de temps à autre dans ce quartier où il rencontre Fleuve de Jade, Tamagawa, de la maison de la capitale. Il n'y a plus qu'à le suivre et le frapper quand bon nous semblera. Ce sera à moi et à mon compagnon Yoshizawa Gonhachi de nous en occuper. La traque est lancée et l'engrenage aboutit à la scène du meurtre dans la chambre d'une maison de rendez-vous. Encore une fois, scène encore une fois décrite avec un grand dynamisme. Jisuke, n'est-ce pas, le méchant, c'est le premier, les deux premiers caractères de ça. Donc je vous lis ça. Jisuke s'était lancé dans une tractation assez malséante avec Fleuve de Jade, la courtisane. Bon, c'était quelque chose de mesquin. Vous savez, Saikaku déteste la mesquinerie des clients. Tout un chacun pouvait l'entendre de la pièce voisine et s'attira pas mal d'hostilité. Fleuve de Jade, irritée, quitta la couche. Quand elle fut sortie, Chosen, la Chosen, donc les tailleurs vengeresses, s'assura que l'homme était bien couché et le pourfendit de son sabre, utilisé pour la toute première fois, c'est quand même fort, n'est-ce pas, en criant « Voici la vengeance de l'amante de Kakuya, Kakuya ga onna ga utsuzo. » De la pénombre surgit Gonhachi, déguisé en ascet montagnard, en Yamabushi. C'est un déguisement très pratique. Yamabushi était des pèlerins, n'est-ce pas ? Ils bougeaient tout le temps, donc ils n'étaient pas assignés à résidence. Et c'était souvent des gens qui étaient en délicatesse avec les autorités de leur localité, n'est-ce pas ? Du seigneur du coin, etc. Bon, c'était le meilleur moyen de partir. Donc, déguisé en ascète montagnard, alors il surgit Gonhachi pour porter le coup de grâce, avant de jeter un vêtement sur la veilleuse proche et s'enfuir par une venelle. Tout l'établissement fut saisi d'émoi et on se lança en masse à sa poursuite. Mais Gonhachi avait préparé son affaire avec la Chosen. Il la cacha dans un coffre, donc un coffre certainement à roulettes, et disparut avec elle. On la chercha. S'étonnant de ne plus la voir. Mais les investigations ne menèrent nulle part. Mais les dernières scènes de l'épisode basculent. Tout d'abord dans le surnaturel, puis dans le religieux. Cette même nuit, donc, et là vraiment, on change. Le Daigan, le grand vœu de vengeance, va se porter maintenant dans une autre dimension. Ce n'est pas sans conséquence d'avoir fait une telle chose. Cette même nuit, il essayait de la transporter discrètement jusqu'à un village de montagne. Ça rappelle le Kakurezato du titre, n'est-ce pas, le village caché, à 4 lieues et demie de là. Alors qu'ils en étaient à proximité, arriva derrière eux, sans le moindre bruit de pas, quelqu'un, le sabre dégainé. Intrigué, il s'arrêta, mit d'abord le coffre à terre. Alors donc, il était sur une charrette et attendit avec le sentiment d'une grande chose imminente. Grâce à la lune du 12 du 10e mois, la neige était en pleine lumière et la vue sur la lande bien dégagée. L'homme qui s'approchait n'était autre que le spectre du défunt Kakuya. Il leur sourit largement et s'évapora. Qui est Usenu ? Qui est Usenu, n'est-ce pas ? Tout aussitôt. Alors, le spectre ici, c'est Omokage, n'est-ce pas ? L'apparence, l'apparition. C'est un mot qui apparaît fréquemment dans ce récit. Il s'est montré à nous sous l'aspect qu'il avait de son vivant, n'est-ce pas ? Adishi Sugata no Mamiyekeruya, pour nous faire part de sa joie d'outre-tombe. Et l'un comme l'autre, de tremper sa manche de larmes. La joie d'outre-tombe, c'est pas Kusaba no Ureshiku Omoi, Kusaba no Kage, c'est-à-dire Kusaba veut dire le lieu herbu, le lieu herbeux, pardon, d'où, donc c'est la tombe. Donc, après cette aventure médiévale dont la saveur nous échappe en grande partie, n'est-ce pas, puisque le culte de la vengeance n'est plus la même chose, encore que ce soit l'un des moteurs les plus courants dans les films d'action, la courtisane poursuit son chemin spirituel, se détachant peu à peu du monde. Alors c'est le paragraphe moins 2 de ce passage. Ils arrivèrent enfin au village où ils vécurent dans le plus grand anonymat. Fukakumi o kakusedomo. Donc ils vécurent dans le plus grand anonymat. Mais en cet endroit, la dame des montagnes prit l'habitude de se vêtir de serge grossière et de se ceindre de lierre tressée. De maquillage, elle ne se souciait guère et garda sa vie durant les dents non noircies, ce qui est le comble de la vulgarité, n'est-ce pas ? Vous savez que les courtisanes, il faut bien vous imaginer que toutes les dames dont nous parlons avaient les dents noircies parce que les dents donnaient un air agressif, donc on les noircissait pour avoir une physionomie, disons, paisible. L'éclat de sa beauté n'en ressortait que davantage, n'est-ce pas ? Naoshimo katachi arawarekeru. Elle prend donc l'allure d'une immortelle cette fois, d'une immortelle taoïste. Elle s'habille elle n'est pas habillée en religieuse, elle est habillée en femme des montagnes, n'est-ce pas? Immortelle, c'est Yamanoshito. Et c'est d'ailleurs le commentateur moderne Fuji Akio qui fait cette remarque. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque dans le second paragraphe, donc ici, et la Chosan donc franchit les toutes dernières limites, le tout dernier pas. Après cette espèce de retraite dans la montagne, elle passe à la vraie vie religieuse. Et ça commence mieux. Tokaku wa tsutsuru minareba. Tant qu'à renoncer à ma condition, se dit-elle. Et à l'âge de 23 ans, elle se rasa le crâne et se confectionna sur les hauteurs, mineni, n'est-ce pas, une hutte de feuillage, sasabuki o hikimusibi. Le vent dans les pins au soir, l'eau du rivulet au matin étaient les seuls bruits de sa solitude. Il paraît qu'elle fit vœu de consacrer sa vie, n'est-ce pas, encore une fois, isho no daigan, encore une fois, daigan, n'est-ce pas, à ramasser de sa propre main des noix de muscadier, de kaya, n'est-ce pas, bon, je donne une approximation, pour réaliser 10 000 effigies de Bouddha, kaya butsu mantai. C'est une façon comme une autre de se livrer à la pratique bouddhique. Cette fois, nous sommes dans cette pratique bouddhique, non sans passer par la case de l'ermitage, encore une fois une manière d'idée fixe chez Saikaku. La courtisane qui est passée par tous les luxes que les plus riches quartiers des plaisirs du Japon pouvaient mettre à sa disposition trouve enfin la quiétude de l'esprit dans la pratique bouddhique la plus exemplaire. Et l'on ne peut manquer de remarquer, bien sûr, que le dernier mot du chapitre, en japonais, est « daigan »,« isho no daigan tozo ». Le grand vœu d'une vie, cette fois pris dans son acception, le plus légitimement bouddhique. Comme en écho, et en réponse aux mêmes mots qu'employait son amant Kakuya dans une acception dévoyée, puisque c'est ainsi qu'il appelait son projet de vengeance, qu'il allait tenter d'accomplir de façon si maladroite et que son amante mènera à bien pour lui. Désormais seule, elle redonne à l'expression son vrai sens qui ne peut que se reporter à la libération bouddhique. Revenu de l'amour, revenu du meurtre, c'est chaud, n'est-ce pas, tuer la vie, comme dit le terme sino-japonais, qui est l'un des plus grands crimes possibles dans le bouddhisme. Donc, elle est aussi probablement revenue à la vie solitaire. Donc. Et elle montre au lecteur ainsi ce qu'est la vraie vie. Nous passons les deux chapitres suivants, malgré plusieurs épisodes qui mériteraient que l'on s'y arrête, pour aller directement aux deux derniers chapitres du livre 7, qui indique très clairement, surtout le quatrième, l'orientation générale du roman. Ce quatrième chapitre a pour titre « L'enquête sur un brouillon ». C'est Hogotazune no... je n'ai pas donné... c'est Hogotazune no Yori, je crois. Donc, l'enquête sur un brouillon, une chaumière et un cœur. Et a aussi comme caractère particulier, comme beaucoup de ceux que nous avons abordés jusqu'ici, de montrer une cohérence portant sur la plus grande partie du chapitre, qui est centrée sur l'histoire d'un couple. Une histoire, comme vous allez le voir, assez tourmentée. Après les digressions d'usage, le récit nous montre au Yoshiwara, donc à Edo, un petit groupe de fêtards au petit matin, jouissant des after hours, on dirait, du quartier des plaisirs. Et qui surprend l'une de ces celles qui font le sel de ce village. Donc ici. À l'étage de la maison du lierre, Tsutaya, Izutsu, c'est le nom de la courtisane héroïne de l'épisode. Vous voyez, ça commence toujours, c'est toujours la même chose, nous le verrons encore dans le chapitre d'après, toujours un petit groupe de fêtards qui se promènent, qui se baladent dans le quartier des plaisirs, qui voient toutes sortes de petites scénettes que Saikaku énumère, et puis l'attention se fixe sur une scénette, et on va commencer à dévider le fil de l'histoire. Donc, à l'étage de la maison du lierre, Izutsu, nom de cette courtisane, en simple courte manche blanc, comme à peine sortie de la couche, faisait pendre sa ceinture par-dessus l'auvent, un vieux truc, n'est-ce pas, le hobby est très long à cette époque, ça pouvait servir et le premier étage des maisons japonaises n'est pas, lui, très haut, donc pour faire passer des messages et tout ça, il suffisait de se servir de la ceinture, du hobby, donc comme monte-charge. Et donc, elle laissait pendre sa ceinture par-dessus l'auvent. L'intérêt fut éveillé. On regarda plus attentivement. Comme de bien entendu, le gaillard qui nouait une lettre à l'extrémité du hobby n'était autre que Jinzaemon du quartier d'Edo. C'est donc, voilà, nous avons les deux protagonistes, Izutsu et Jinzaemon, dans un épisode qui ressemble un peu à Roméo et Juliette cette fois. La courtisane, ainsi surprise, comme elle, comme elle n'était pas d'un naturel accommodant, ne s'en montra que plus vigoureuse dans ses revendications. Même ainsi surpris au beau milieu d'un rendez-vous secret, ils ne voulurent pas renoncer, malgré les... Puisque, oui, j'ai laissé quelques précisions de côté. Évidemment, le bruit de cette liaison interdite, n'est-ce pas, les rencontres avec les courtisanes ne se font que par l'intermédiaire de l'entremetteuse et du tenancier dans la maison de rendez-vous, la Ageya. Tout ce qui est en dehors de cela est passible d'amende et, dans le pire des cas, de déchéance, n'est-ce pas, de courtisane de luxe. Elle passe à une prostituée de bas étage. Donc, la rumeur se répand, on commence à vouloir la contenir, mais Izutsu ne l'entend pas de cette oreille, et son amant non plus. Même ainsi surpris au beau milieu d'un rendez-vous secret, ils ne voulurent pas renoncer. C'est le deuxième épisode. Malgré les rumeurs qui se propagèrent en un tournement, elle vit naturellement son commerce décliner et finit par obtenir l'autorisation de son protecteur et put aimer librement. Donc, ça, nous avons déjà vu plusieurs exemples de surprenante générosité de la part des tenanciers souteneurs chez Saikaku. Il est certes difficile de savoir à quel point il ne s'agit que d'un artifice littéraire invraisemblable ou bien si de tels cas existaient réellement, mais nous laisserons cette question de côté. La belle Izutsu aurait dû désormais être heureuse et tranquille, mais ce n'est pas dans sa nature, et on pourrait dire d'elle, comme d'autres personnes, « Si je t'aime, prends garde à toi ». Donc, rien n'eût dû lui rester à regretter en ce monde dans toutes ces conditions. Mais Izutsu était d'un naturel jaloux. Elle multiplia par la suite les tracasseries à l'égard de son amant, sans que l'autre pût se résoudre sitôt à la quitter. Mais il finit par s'enlacer, et c'est cette fois Jinzaemon qui prend une décision. Une année passa, et une autre. Et une autre touchait à sa fin, lorsque la nuit du 14 du 10e mois, il prétexta une visite au quartier d'Asakusa, à Edo, n'est-ce pas, pour quitter l'établissement, et entra incontinent en religion. Hottai, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Soleyori suguni hottai shiten. Il entra immédiatement incontinent en religion. Il prit le nom religieux de science du dogme, Sōchi. Vous verrez plus tard une allusion, pourquoi un lien possible avec ce nom. Et parce qu'il faut bien vivre quand même quand on a renoncé au monde, il se mit à vendre des légumes à l'étalage dans une venelle près de la rue Hongoku. Il passait ainsi ses jours dans la plus profonde retraite, Fukaku Shinobite. C'est pas il se cache, n'est-ce pas, Shinobu, comme un mot que nous voyons constamment dans ces narrations, c'est le fait de ne pas être en public, alors, ou de subir quelque chose. Jinzaemon quitte donc le monde, mais selon un mode que nous avons déjà vu à plusieurs reprises, il s'agit plutôt d'un inkyo, d'un retrait de la vie active, en particulier le rejet de la voie du plaisir. Et nous voyons que Jinzaemon est ici une sorte de frère convert, menant une vie intermédiaire entre celle du religieux errant, du hijiri, et celle du pieux laïque, du koji. Dégoûté désormais, il vit dans la clandestinité du monde, le shinobi. Mais bien évidemment, l'Izutsu ne l'entend pas de cette oreille. C'est le paragraphe 3, le dernier paragraphe, n'est-ce pas ? Mais Izutsu brûlait d'amour pour le gaillard. Et lorsqu'elle lui vend de ce qu'il eut quitté l'état laïque, Shukki, dit le texte, n'est-ce pas, c'est quand même un terme très religieux, elle décida de prendre le même état, Waremo sono Mito. Elle coupa sa noire chevelure, quitta les trois landes, Sanya, c'est une appellation courante du quartier de Yoshiwara, et pendant plus d'un an, se lança à sa recherche, allant jusqu'aux barrières de la province. Il n'était pas si loin, en réalité. Ainsi, ce sont à présent les deux protagonistes qui ont renoncé au monde. Mais nous voyons encore une fois le redoutable humour paradoxal de Saikaku. L'entrée en religion de la courtisane n'est qu'un moyen pour se consacrer à assouvir sa passion. Et nous tombons presque aussitôt dans la magie la plus sombre. C'est l'essentiel de ce dernier paragraphe. Il s'était donc enfui en une contrée lointaine. Elle lui en voulut fort. 100 jours durant, elle se rendit prier au sanctuaire de la divinité aux 7 visages. Alors c'est... Voilà, oui. Vous voyez, Nana Omote no Myōjin, qui est la lecture japonaise de Shichimen Daimyōjin, qui est un temple du voisinage, mais où est honorée une divinité gardienne du célèbre Kuonji, n'est-ce pas, du Minobusan, c'est-à-dire le monastère principal de l'école de Nichiren, n'est-ce pas. Et alors, cette divinité, qui est une divinité aquatique, est considérée comme une émanation de Benzaiten. Bon, je vous épargne les détails. Simplement, il faut savoir qu'elle, ce Shichimen Daimyōjin, donc littéralement le dieu de sapience aux sept faces, était venu écouter les sermons de Nichiren, qui se doutait bien que, sous le trait d'une très jolie jeune fille, il se doutait bien qu'il y avait anguille sous roche, si l'on peut dire. C'était plus qu'anguille sous roche, c'était plutôt dragon sous les eaux, parce que c'était la divinité qui habitait dans un lac voisin du Kuonji, enfin du lieu où pratiquait Nichiren. Nichiren finit par la suivre, la découvrir. Et comme elle arrive souvent, elle se voue désormais à la protection de l'école. C'était un dragon rouge, Koryu, n'est-ce pas? Alors évidemment, le fait qu'on l'associe à cette dragonne ici montre bien son caractère, n'est-ce pas? Donc, 100 jours durant, elle se rendit prier au sanctuaire de la divinité aux 7 visages et se piquant chaque jour une aiguille dans le doigt. « Si vous ne faites pas que je le retrouve, je me transformerai immédiatement en dragon de feu, Kariu, n'est-ce pas, Shinotatsu, et me jetterai ainsi dans votre étang. » Elle va être encore plus rouge que le dragon rouge de la légende, enfin qui est la source de cette divinité. Et l'herbe du chemin était rouge de son sang, donc de son sang versé par 100 aiguilles. Donc, elle finit presque par désespérer de le retrouver jusqu'au jour où elle rendit visite à l'une des anciennes entremetteuses de son établissement, désormais honnête mère de famille. Afin de traiter dignement Izutsu la nonne, n'est-ce pas, Izutsu Dōjin, encore une fois, une appellation de respect pour ceux qui pratiquent la voie bouddhique, elle prépara des gâteaux de riz pour le thé, et envoya sa fille acheter du sésame. Alors c'est là que le brouillon du titre apparaît, n'est-ce pas, vous voyez, nous avons souvent affaire à de l'Alexandre Dumas. Donc vous allez voir comment. Elle envoya sa fille acheter du sésame pour mettre sur les gâteaux. Celle-ci alla justement chez notre marchand de légumes, donc son Jinzaemon, n'est-ce pas, pour en rapporter dûment enveloppé. Preuve qu'un lien karmique ne vient jamais à l'épuisement. Encore une fois, le saikaku, bon, on l'avait compris, mais il en rajoute, n'est-ce pas? Il donne bien le terme technique. C'est en, c'est encore une fois une relation qui dépasse de beaucoup le simple hasard quotidien. En regardant le papier d'emballage, Izutsu reconnut un brouillon qu'elle avait écrit elle-même du nouveau recueil de poèmes anciens et modernes, le Shinko Kinshu, vous savez, ce grand recueil des environs de l'an 1200 qui clôture les 8 premiers recueils impériaux poétiques. Fort intriguée, elle se rendit à l'établissement Elle surprit Jinzaemon, métamorphosé, en train d'arranger du persil de sa propre main. Vous voyez, c'est très terre à terre. Elle lui en voulut tant alors que la cloche de la troisième rue eût pu se transformer en eau chaude. Et c'est encore une fois une allusion cette fois, c'est un serpent, une femme serpent qui était amoureuse d'un moine du Dojoji, n'est-ce pas, ce que je vous donne ici en dernier, et qui avait fini par l'entourer alors qu'il s'était réfugié sous une cloche, de transformer en serpent brûlant. Elle faisait brûler la cloche, n'est-ce pas, donc, et c'est évidemment une allusion à cela. La femme jalouse est incendiaire, si on peut dire. Donc Saikaku continue la métaphore à la fois saurienne et reptilienne, dragon rouge et serpent blanc, de cette femme qui retrouve son amant et l'emprisonne de son amour. Et celui-ci se laissant faire par terreur. Et elle lui fit mille remontrances et ils finirent sur l'oreiller leur conversation. Même là, il sentit encore la peur le gagner. Et plus d'une fois, au cours de la nuit, il manqua d'effaillir. Vous voyez que c'est vraiment un amour qui est un peu particulier. À bien réfléchir sur le début de leur engagement amoureux, qu'elle en fût venue à se montrer jalouse d'un homme qui avait commerce avec elle, et qu'elle supporta aussi mal, dans l'ardeur de sa flamme, de ne pas le voir ou d'entendre, ne fût-ce qu'un temps, ne peut s'expliquer que par un lien singulier provenant d'une vie antérieure. O katanaranu inga nari, n'est-ce pas ? Encore une fois, c'est quelque chose que c'est le même inga que nous avons vu tout à l'heure, le terme technique pour la loi des causes et effets. Encore une fois, l'enchaînement causal, donc qui est le moteur de la vie et des narrations de Saikaku. Tout cela est donc très mal parti. Mais Saikaku ne veut pas faire un portrait à charge de la courtisane et tente d'expliquer au lecteur la tournure de ses pensées. Cette femme n'était pas d'un naturel mauvais, non plus que de figure désagréable. Tous en faisaient l'éloge. Elle excellait en tout, était fort versée dans la voie de la poésie du Japon. Vous voyez, il y a Shikishima no Michi, encore une fois une voix japonaise. Vous vous souvenez, j'avais fait allusion à l'importance des trois voix chez Saikaku. Vous avez la voix du bouddhisme, Butsudo, Hotoke no Michi, et vous avez la voix de la poésie, Uta no Michi, Kado, dont Shikishima no Michi est une autre appellation, et puis vous avez Hiro no Michi, la voix du désir, Shikido, n'est-ce pas, qui se présente donc comme une pseudo-voix aussi. Et comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, la voix de la poésie et la voix du bouddhisme sont assimilées, et Saikaku essaye de montrer que cette voie du plaisir est en quelque sorte parallèle, mais elle ne va qu'à ce genre de situation. Tous en faisaient l'éloge, donc. Elle excellait en tout, était fort versée dans la voie de la poésie du Japon, et l'on eût été en peine de lui trouver la moindre lacune. Mais elle était par trop préoccupée de sa personne. Au long des nuits d'été, jamais elle ne se laissait aller au rêve, mais restait assise auprès de sa couche, s'éventant sans trêve. Le jour venu, elle arrachait en soupirant ses rares cheveux blancs. Et lorsqu'il devait s'absenter, elle attendait son retour sur le seuil, hors d'elle-même à la pensée qu'il ne la voyait pas en réalité. Utsusunimo waremo minu mao uramu. Et cette réflexion qu'il ne la voyait pas en réalité, Utsutsu, va être aussi une allusion à la suite ici. Amour absolu, certes, mais il semble difficile ou pénible d'en être l'objet. Et Saikaku, après cette brève description de la femme, passe à son homme. Tout cela provenait bien sûr d'une passion qui n'était pas peu profonde. Mais l'homme commençait à s'en lasser. Il lui devenait de plus en plus pénible de revoir son visage, comme dans la chanson de Brassens. Ces choses-là arrivent en effet. Dans la vie, il arrive que l'on se sépare même d'une épouse dont on a eu des enfants. Et vous voyez que pour dire dans la vie, ici dit Seijo, n'est-ce pas ? Yonoue, à l'avant-dernière ligne. Seijo ni kono arunaka, etc. N'est-ce pas ? Donc, c'est la vie, la vraie vie en quelque sorte, qui n'est pas celle du kudowa. et le courageux amant de s'enfuir enfin. Donc, il s'enfuit enfin. Plus Izutsu la bonzesse, encore une fois, il l'appelle de plusieurs Doshin, cette fois Bozu, n'est-ce pas? Izutsu Bozu. Plus Izutsu la bonzesse le chérissait, plus il s'en accassait. Si bien qu'encore une fois, il quitta discrètement la rue Hongoku et se mit en route, comptant s'en remettre à un parent éloigné d'Abegawa en Suruga. Donc assez loin de Tokyo, et endroit d'où l'on voit le mont Fuji. Étrange coïncidence, ce Yukari, n'est-ce pas ? Car autrefois, c'était de cette province que l'on faisait venir les filles aux trois landes d'Edo. Sous l'appellation de Yukari, donc, c'est encore une fois le destin karmique qui est invoqué, et à juste raison, car la suite montre que l'on n'échappe pas à son destin. Et c'est ce que je vous donne ici, n'est-ce pas ? On se trouvait alors au 9 du 12e mois. Un vent épouvantable balayait les dunes de sable, agitait les pins dans la plaine d'îles flottantes, Ukishima, en Suruga. Aux environs du bois de l'arbre sec, Kogarashi, alors que tout ça, ce sont des lieux poétiques en même temps. N'oubliez pas que Saikaku est un grand poète de haïku et sa prose est bercée de utamakuda, n'est-ce pas, de toponymes poétiques qui font qu'on a l'impression de lire des fragments de poèmes en lisant ses descriptions. Donc, aux environs du bois de l'arbre sec, alors que s'amoncelaient des nuées de cinq couleurs, goshiki, je reviens dessus dans un instant, il regarda attentivement, s'attendant à voir l'illustre montagne, Meizan, c'est évidemment le mont Fuji, le Fujiyama. Donc, l'illustre montagne. Alors, venu de l'immensité marine, le soleil levant fendit les vagues pourpres, Kurenai. Et dans le ciel apaisé, il aperçut confusément le mont à travers les brumes, et tout éploré, rivalisant dans sa pâleur avec la neige, Izutsu le dévisageait. Il se sentit le cœur défaillir. Se ravisant au bout de quelques instants, il voulut regarder, mais l'apparition n'était plus là. Omokage, vous voyez, c'est le même mot que pour Kakuya tout à l'heure. Voici l'illustration de ce passage. Vous voyez le Jinzaemon qui marche vers sa lointaine province en pensant s'enfuir. Il regarde, il voit le mont Fuji au loin et qui se trouve sur le mont Fuji, Izutsu qui le dévisage. Alors évidemment, il y a de quoi être inquiet. Voici donc encore une apparition de même nature, plus que probablement, que celle dont nous avons déjà été témoins dans le roman, c'est-à-dire des projections d'un esprit, des projections de son propre esprit, n'est-ce pas, obsédé par les passions. Ici, la peur et la mauvaise conscience. Donc, il s'agit donc d'un kokorodama, n'est-ce pas? Mais sur quel piédestal, puisque ce n'est autre que le mont Fuji? En réalité, cette scène est annonciatrice de celle qui fera l'apothéose et l'apocalypse de tout le roman, au livre 8. Elle l'est d'abord par sa structure apparitionnelle, mais aussi par l'ajout d'un détail important qui sera repris plus tard. Les nuées pentachromatiques, n'est-ce pas, de cinq couleurs, Goshiki no Kumo. Ces cinq couleurs qui sont caractéristiques des ornements de la terre pure d'un Bouddha, d'un Jodo, et tout spécialement de celle du Bouddha Amida. Nous y reviendrons donc en temps voulu, mais gardons ce signe précurseur à l'esprit. La leçon aura porté. L'intrépide Jinzaemon comprend que ce genre d'obsession ne se soignera pas en prenant le bon air à la campagne, et il décide d'infléchir autrement la courbe de sa vie. Je cite ce passage ici. Cet incident ne fit que renforcer son jugement sur le monde flottant, Ukiyo to Sadame. Dans la plaine orientale du mont Utsu, il se construisit à l'ombre de 8 mikokuliers enoki, une cabane de branchage, d'où il avait vu sur la rivière Mariko. Et tandis qu'il invoquait le nom du Bouddha, il se souvenait parfois du maître de poèmes enchaînés qui avait jadis habité cette montagne. Il s'agit, je ne sais pas si je vous l'ai mis, non, je ne crois, oui, bon, ça n'a pas d'importance. Il s'agit de Socho, justement, Socho, un poète de Muromachi, dont justement Jin Zaemon, lorsqu'il était entré dans la voie bouddhique, avait pris le nom Sochi. Et le caractère So de Sochi est le même que Socho, pour indiquer donc la lignée dans laquelle il se situait. Et c'était un grand maître du Renga, donc des poèmes enchaînés, sur lesquels je ne reviendrai pas, parce que ça, et qui était très, très à la mode, et dont le haikai est un dérivé direct, n'est-ce pas? Donc il se souvenait parfois du maître de poèmes enchaînés qui avait jadis habité cette montagne. Et nous arrivons au Nouvel An, donc, n'est-ce pas, il va fêter le Nouvel An, et encore une fois, Saikaku se laisse aller à sa nature poétique. Pour le Nouvel An, il y a plusieurs décorations obligées, n'est-ce pas, du genre du sapin de Noël chez nous, etc. Donc, Saikaku dit qu'il n'a pas besoin de réunir ces décorations parce que la nature les lui fournit. Donc, pour les décorations d'usage, il avait au naturel les pins sur les cimes, n'est-ce pas, pour les kadomatsu. Et dans la vallée, les fougères argentées, urajirogusa. Et l'eau jaillissant au pied des rochers lui servit à ravir d'eau lustrale de Haka. Et sans s'attrister de ce qu'approcheraient les vagues du vieil âge, il put ainsi s'installer dans sa chaumière dès la dernière nuit de l'année. Il réveillonne, si j'ose dire, dans sa chaumière. Vous voyez, Kono Iori ni Sumikeru ni. Donc la chaumière, encore une fois, l'ermitage qui est presque toujours le but ultime des personnages. N'oublions pas qu'il a été précisé que nous étions au 12e mois, donc moment propice au commencer une nouvelle vie. Et c'est bien ce que veut faire l'amant hanté en se confectionnant cet ermitage, qui est l'ultime solution aux souffrances de ce monde, hormis le suicide, bien sûr. C'est donc la nature qui lui fournit les décorations de Nouvel An, et tout semble s'ordonner pour que le malheureux puisse enfin jouir du repos de l'âme. Il n'en sera hélas pas ainsi, et nul répit ne lui sera accordé. Voilà, trois citations, l'épisode que je découpe en trois citations. Mais sous la froide fenêtre du mur crépi de frais, Namakabe, Nomado Samuku, il ne trouvait pas le sommeil. Tandis qu'il songeait à son nouvel état, où même en rêve, nulle rencontre n'a lieu, bon, je n'entre pas dans les détails de citation, l'image d'Izutsu lui apparut, d'une intensité toute réelle, Maza Masato Arawade. Elle resta là, sans mot dire, à le tourmenter toute la nuit de sa présence. Le spectre, le Kage cette fois, se dissipa au lever de jour pour le hanter à nouveau chaque soir, ce jusqu'à la fin du second mois. Donc elle revient tous les soirs. Situation typique de hantise subjective dont nous retrouverions des descriptions très voisines dans telle nouvelle d'Anatole France. Vous savez, il y a une nouvelle d'Anatole France où la femme avait un promis, un amant qui meurt brusquement. Elle veut se consoler quelque temps plus tard dans les bras d'un ami de son amant, mais elle voit à chaque fois qu'ils sont ensemble, elle voit le visage blessé de son ancien amant, et elle décide de se séparer du nouveau. Donc il ne reste plus ensuite au destin qu'à suivre son cours. Il n'en dit rien à personne, mais se trouva très ébranlé. Il se mit à dépérir jusqu'à ce que survint l'issue fatale, Onozukara Kagenimo Shirudu Toki. Sa cabane fut alors ensevelie sous les feuilles et finit par disparaître dans un incendie, réalisant la parabole de la demeure en feu. Vous voyez, Katakuwa Imato, pour ceux qui connaissent le japonais, vous voyez à quel point dans cette phrase extraordinairement concise et très, très riche en même temps, enfin, c'est tout à fait le style de Saikaku. Donc, réalisant la parabole de la demeure en feu, et c'est la fin de... Donc, sa vie est donc exemplaire de la doctrine bouddhique jusqu'au dernier détail, puisque cette référence est réalisée à l'une... La référence est sous nos yeux, en quelque sorte, à l'une des plus célèbres paraboles du Sutra du Lotus, dont je vous ai parlé plusieurs fois, et vous voyez que Saikaku a constamment cette idée en tête aussi. Mais il restait encore ce que les Anglais appelleraient un « loose end », n'est-ce pas, un épisode à finir, et auquel Saikaku s'empresse d'apporter une solution, c'est la dernière citation. « Au même jour et à la même heure, Sonoshi Sonokokuni, dit-on, Izutsu, qui se trouvait en Musashi, une région plus près de Tokyo, bien sûr, s'endormit pour toujours. Nemuru ga gotoku, mimakari keru tonari. » Peu d'épisodes dans ce roman sont aussi profondément imprégnés de réminiscences bouddhiques que l'on retrouve dans la diversité des appellations de la vie qu'ont choisi les deux protagonistes, Bozu, Shike, Dojin, etc. Et jusqu'au rappel de l'état global de tout l'univers qui est ici décrit par Saikaku, ce monde du désir qui est comme une demeure en feu. Mais le paradoxe dont se délecte notre auteur est que cet empire des passions gouverne des personnages qui étaient censés s'en mettre à l'abri en s'en remettant à la pratique bouddhique. Nous pouvons voir avec quelle efficacité. L'évocation finale de la chaumière dans ce quatrième chapitre entraîne le titre et probablement aussi le contenu du cinquième et dernier chapitre du livre 7. Certes, il eût été plus confortable pour un lecteur soucieux de cohérence que ce fut le quatrième chapitre qui mena au livre 8. Mais ce cinquième chapitre, avec son allure de sarabande drôlatique, dont la toile de fond est la vie religieuse des moines et des moniales, de nom tout au moins, se présente en fin de compte comme une inversion de la vie religieuse qui peut être vue comme une préparation à la scène finale, qui sera aussi une inversion d'un grand motif religieux. C'est pour cela qu'il n'est pas sans intérêt de tâcher d'en donner une idée, aussi décousue qu'elle puisse être. Ce chapitre part donc de... Je ne donnerai plus de citation. Ah si, je vous donne quand même quelques citations. Oui, c'est très bien, je pensais qu'il n'y en avait plus. Mais... Donc ce chapitre part donc de l'évocation de la chaumière ermitage de Jinzaemon, pour reprendre dans le titre une variante du même terme, réminiscence en cherchant un ermitage. Iori Osagaseba Omoigusa. Iori cette fois. Titre qui reflète bien le caractère éclaté et fragmentaire du chapitre. Mais Omoigusa, donc réminiscence va très bien ici. Mais nous n'oublierons pas que l'on peut appliquer les mêmes adjectifs à l'ensemble du roman. Ce qui est digne d'intérêt, répétons-le, c'est l'imbrication avec le monde religieux qui fait ressortir l'incongruité et la banalité tout ensemble des chemins de vie dans lesquels sont poussés les personnages. La scène se passe d'abord à Osaka, aux environs du Shiten-no-ji, le grand temple d'Osaka, qui est un grand lieu de pèlerinage, de fête, et qui a été réputé être fondé par Shotoku Taishi, n'est-ce pas, dont le 2021 fêtera il est mort en 622, n'est-ce pas, donc ça sera le 1200e anniversaire de la mort. Donc, celle, au pluriel, qui avait renoncé au monde, habitait un endroit surnommé le Saga de Naniwa. Saga, c'est le quartier qui est au sud-ouest de Kyoto, grosso modo, qui était à l'époque et qui est encore maintenant une très belle région de beauté naturelle et de temples, et qui était aussi une région où l'on s'isolait du monde, n'est-ce pas ? Et Naniwa, c'est évidemment l'appellation d'Osaka. Donc cet endroit qu'on avait surnommé le Saga de Naniwa, au quartier du sel, Shiomachi, qui est près du port, tout ça. Près du temple des rois célestes, évidemment, le Shiten-no-ji. En ce site, qui surpassait même les monts du nord, Kitayama, qui est un endroit aussi de pratique bouddhique dans le nord de Kyoto, et évidemment célèbre par le Genji Monogatari, donc dans ce site ne se trouvaient guère que des ermitages de moniales, Bikuni no Iori, vous voyez, il donne le nom Bikuni, qui suivaient ainsi les traces de l'auguste recluse. Alors, Bikuni, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont vraiment les moniales pleinement ordonnées du petit véhicule. Alors, c'est un peu exagéré d'appeler ces gens qui ont une vie semi-religieuse Bikuni, mais ça se fait couramment à l'époque des dos. L'auguste recluse, c'est ainsi que je traduis le Onsuke, n'est-ce pas ? Les premiers mots de la troisième ligne, ce Onshuke ou Mishuke, c'est évidemment la, la célèbre Chūjō Hime qui avait tissé ce fameux mandala, n'est-ce pas, le Taima mandala, qui est encore conservé, bien que très restauré, dans un temple proche de Nara, à Katsuragi, n'est-ce pas, et qui date du 8e siècle. Bon, alors évidemment, elle suivait donc les traces, elle se consacrait aussi à des travaux de tissage, etc. C'est pour ça c'est ainsi évoqué, n'est-ce pas. Ces ermites, ces femmes ermites, sont à moitié dans la vie active aussi. Le quartier en question, selon le commentaire de Fuji Akio, existait vraiment. Bien sûr, on s'en doute qu'il existait vraiment, mais il abritait en réalité des femmes au bord de la pauvreté, des veuves, par exemple, d'anciennes courtisanes imprévoyantes, sans compter de réels solitaires. Saikaku apporte encore une précision sur cette population particulière. C'est la deuxième citation. C'était le lieu de retraite idéal pour qui faisait des vœux de future existence. Nochi no yo o negao. Et vous retrouvez negao, qui est la lecture japonaise du gan de Daigan de tout à l'heure, n'est-ce pas ? Tout en n'ayant que peu de temps devant soi. Saki no chikai toshi. Et pour celles dont les enfants ne pleureraient pas s'ils venaient sur le champ à mourir. Donc dans un tel paysage d'EHPAD de plein air, si l'on peut dire, apparaît un personnage incongru. À y mieux regarder, on en aurait vu une qui arborait des manches flottantes de 2 pieds de long. Le goshaku, là, je l'ai rétabli, enfin, le commentateur nous dit pourquoi il vaut mieux considérer que c'est la bonne taille, n'est-ce pas ? C'est un terme technique qui désigne une façon de plier des manches qui revient à 2 pieds et pas à 5 pieds. Et dont l'âge ne dépassait certainement pas 20 ans. Si belle qu'on pouvait croire que l'oblate du Bouddha, alors Hotoke Gozen, Hotoke Gozen, c'était une favorite de Taira no Kiyomori, dont vous connaissez la vie agitée à la fin du XIIe siècle, qui elle-même était une danseuse, une courtisane danseuse, Shirabioshi, entrée en religion. Alors, elle était si belle qu'on pouvait croire que l'oblate du Bouddha avait sans doute eu cette apparence. Qu'elle fût à battre en mesure de poisson de bois, le mokugyo, n'est-ce pas, quand on récite des sutras, ou à brûler de l'encens, son application avait quelque chose d'exagéré, qu'il n'essaie pas que d'intriguer. Shusho ni misesugite okashi. Elle cache quelque chose. L'explication la plus probable est aisée à imaginer. Koremina uaki no sata nadi, n'est-ce pas ? Tout cela évoquait irrésistiblement à l'esprit une liaison amoureuse. Remarquons à présent le mode de narration de Saikaku qui va commencer comme une supposition d'auteur pour entrer ensuite dans des détails qui préciseront la supposition comme s'il était effectivement vrai. Alors, deuxième citation. Elle avait peut-être rompu avec un amant. Et sur l'impulsion du moment, s'était rasé la tête. Ou bien il s'agissait d'une orpheline qui n'avait pas voulu s'en remettre à une tante, ou qui, avant de se fiancer, voulait effacer une renommée galante. Était-ce encore que ses incartades passées lui avaient valu d'être répudiée 4 ou 5 fois, et que, par crainte du scandale, elle avait offert son crâne au rasoir, malgré qu'elle en eût. Sa famille pourvoyait à ses besoins, et elle vivait sans connaître le froid ni la tristesse. Insensiblement, vous voyez, nous arrivons à quelqu'un qui est bien cadré. L'hypothèse ainsi établie comme fait réel, la suite se fait plus précise, sans sortir du milieu clérical. Excusez-moi, j'ai oublié une citation, je vous la donne ici. Elle avait une nuit prêté l'oreille aux injonctions d'un religieux licencieux, un ukiyo-bose donc, qui lui rappelait que le paradis était ici même, Gokuraku wa Kokoyo. Elle avait donc une nuit prêté l'oreille aux injonctions d'un religieux licencieux, un ukiyo-bose, qui lui rappelait que le paradis était aussi ici même, le Gokuraku, c'est-à-dire la terre pure d'Amida, où elle a fait vœu de renaître, n'est-ce pas ? Mais c'est ici, dit le moine un peu, raisonneur et spécieux. Ce fut le début de sa dissipation. Le Bouddha, fort heureusement, ne parle pas. « Hotoke-sama wa shitoni mono iwanu ga arigatai », se disait-elle. Elle troqua les beignets et les ignames sauvages, donc une nourriture de fortune, qui faisait son ordinaire, pour la morue séchée et le marlin salé. On raconte qu'un poissonnier faisait chaque jour une tournée clandestine pour lui apporter dans un panier à fond aéré de libérales préparations, canard farci, carpe en lanière, omelette, marinade de poisson. Quand nous parlons de suppositions d'auteur, il ne faut pas oublier que dans la narration, elles sont exprimées comme idées émises par le petit groupe qui parcourt le quartier des Chaumières-Hermitage, sans être vraiment marquées comme telles. Le lecteur est censé se laisser aller à leur lecture sans chercher à vérifier d'où elles émanent. C'est ainsi que l'on ne sait d'où vient la précision suivante qui éclaircit les rapports entre la pénitente et l'abbé. Il semble qu'une nonne plus avancée en âge, c'est la deuxième citation, n'est-ce pas ? Une nonne, donc un ama, plus avancée en âge, ait joué le rôle d'intermédiaire, Nakadachi. On la voyait prendre on ne sait quoi, donc sans doute une lettre d'amour, d'un sachet, un talisman, d'un mamori bukuro, pour le fourrer dans la poche de l'autre, du moine. Et lorsque survenait un importun, se mettre à parler de registre mortuaire, kakocho, n'est-ce pas ? C'est la liste des morts du temple dont il faut recueillir les contributions des familles pour faire les prières, etc. Bizarre, il n'y a là-dedans rien à cacher. Les veuves constituent la proie par excellence de nos bons abbés, Otera-sama no Morozokashi. Il faut donc pardonner tout spécialement à ceux-ci lorsqu'ils s'adonnent au commerce des courtisanes, jorogurui, parce qu'il y aurait moindre mal en quelque sorte. Ça, c'est mieux ainsi. Après une brève, sarcastique et éclairante digression sur les moinillons qui, sur la route des Kozo, qui, sur la route des séminaires du Kanto, afin d'y parfaire leur étude, font halte au Shimabara avec la permission du Bouddha, c'est son mot. Yurushitamai, le petit groupe qui, sous l'œil du lecteur, passe par une... une singulière abbaye de Telem. Je vous donne encore cette dernière citation. Admirons donc un monastère paillard, Namagusadera, en plein essor, se dirent-ils en le longeant. Alors, grand amusement, il se trouvait, vous voyez, enfin, il s'amuse de choses un peu bizarres, mais Okashiku, n'est-ce pas ? Alors, grand amusement, il se trouvait, encore que Okashiku peut vouloir dire aussi leur surprise, mais il se trouvait sur la haie vive qui le bordait à l'ouest, un écriteau annonçant en caractère tarabiscoté, c'est-à-dire maniogana, maniogaki, le terme de, vous voyez, yayasama oroshiguzuri, gusuri, c'est-à-dire des potions abortives. Alors c'est le côté. Est-ce que c'est vraiment une chose vue ou lue par Saikaku ? En tout cas, le monastère faisant la réclame de potions abortives, dont le nom dialectal Yaya-sama, c'est le bébé. Yaya, c'est le bébé en dialecte du Kansai, n'est-ce pas ? Enfin, dans certains dialectes du Kansai. Et c'est un nom tout à fait quotidien, banal, est écrit en caractère archaïsant. Qui leur donne un degré plus élevé d'acceptabilité, si vous voulez. Cela apparaît comme une addition particulièrement cinglante à cet enchaînement descriptif très peu reluisant auquel se livre Saikaku ici. Nous arrivons ainsi de proche en proche à un village de la grève, et vous voyez que ça finit un peu sur la même façon, sur la même tonalité que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. On battait là, sur la grève, à longueur de journée, la cloche liturgique, kané, n'est-ce pas ? Tandis qu'une voix douce et digne récitait l'invocation de Bouddha en mille jours, Sennichi no Nembutsu. L'ermite n'était autre que Kumenosuke, l'ancienne courtisane du quartier des plaisirs de Sakai, à Osaka. Cette rencontre est bien sûr l'occasion de relater le hen, la relation, justement, causale, qui a amené la femme à cette vie érémitique. Je cite, « Ce changement de vie provient de ce que, rachetée par quelqu'un qui s'était épris d'elle, elle était devenue une femme entretenue. Son amant la visitait de temps à autre. Mais comme il se plaignait gravement des parents de sa belle, elle passait ses journées dans l'affliction. Elle eut beau s'excuser par mille raisonnements sur les liens familiaux, il ne voulut rien entendre. Et le mécène, donc, lui présenta l'alternative qu'il avait en tête. « Je vous donne dès ce jour congé, sans vous en vouloir. Déciderez-vous de vivre, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, de votre métier mondain, et donc de continuer la relation commerciale avec lui ? et de ne plus voir vos parents, ou bien renoncerez-vous au monde pour vous adonner à la piété filiale, Oyako no Katarai. Ce sera à vous de décider. Elle le remercia de la longue bienveillance qu'il avait eue à son égard, lui promit qu'elle ne le trahirait point et qu'il était impensable qu'elle eût un autre amant. Donc elle prend la seconde solution. Sous ses yeux, elle coupa la chevelure qui assurait son ministère et revêtit l'habit préparé de longue date. L'amant, tous ses doutes dissipés, versa des torrents de larmes, tandis que la renommée de la femme se répandait du nord au sud. Vous voyez, c'est une histoire aussi de contrat à l'amiable et d'une grande générosité. Mais c'est en même temps un singulier marché qui est ainsi proposé. Quitter la famille, n'est-ce pas ? C'est un terme que nous avons vu plusieurs fois. Shuke, qui veut dire littéralement, c'est le fait d'entrer en religion en sino-japonais se dit quitter la maison, la famille. Donc elle quitte la famille afin de pouvoir fréquenter ses parents, que le mécène ne souffrait plus. Il y a là une contradiction dans les termes que Saikaku ne semble pas relever. Il faut toujours se méfier avec lui. Ce qui est révélateur, en tout cas, de la mentalité qui prévalait à l'époque dans la vie religieuse. Pour le mécène, il s'agissait tout simplement de cesser le commerce des hommes, de se mettre en retraite, et non de rompre tout lien avec la famille. Mais ici encore, dans le dernier chapitre, si l'on néglige la brève scène finale de beuverie du petit groupe, donc dans ce dernier épisode du dernier chapitre de l'avant-dernier livre, nous avons la vie bouddhique présentée comme la voie, somme toute, la plus recommandable pour sortir de ce monde du clinquant et du faux-semblant. Il nous reste maintenant à aborder le dernier livre où cette voie sera consommée. Et je vous remercie pour aujourd'hui.